Cendric Bitton, manager général du FC7, il est là. Il est là dans nos studios Radio One à Juvignac. Merci Cendric d'être là et bonjour.
Eh ben bonjour à tous les auditeurs de Radio One et merci à toi de recevoir le FC7.
Écoute Cendric, comme on sait que ton temps est précieux, le nôtre aussi à vrai dire, hein. On va pas revenir sur l'excellente saison du FC7 hein, qui accède au National 1. On va aller tout de suite plein pot vers l'actualité car il y a du grain à moudre. Alors Cendric, tout d'abord, la semaine dernière, on a eu un peu froid dans le dos puisqu'on apprenait un peu brutalement que la DNECG avait mis en délibéré son avis, rappelons-le, pour valider définitivement la montée du club en National 1. Peux-tu nous en dire un petit peu plus?
Oui, il y a aucun problème à ce sujet. Tu sais que la DNCG, en fait, tout le monde pensait qu'ils allaient assouplir un petit peu les conditions de passage devant le gendarme financier. Puis on s'est rendu compte qu'avec ce Covid, avec cette crise financière et les problèmes qui sont liés au club amateur, ils ont été beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus exigeants que les années passées. Ce qui nous concerne, on n'était pas trop inquiets par rapport à la situation de ce mise en délibéré. C'était surtout dû à une présentation de papier qui ne nous avait pas été demandé les années passées et puis qui a été justifié aussi par un changement de statut puisque le club va passer en club élite et va dépendre de l'agglomération de Tours. Et donc, en fait, les subventions qui étaient données dispatché entre l'agglo et la mairie et donc on avait besoin de confirmation écrite de la part des deux parties ainsi que de la région. Et à ce sujet, nous avons eu un maire et des responsables, que ce soit Monsieur Castan, Monsieur Isoir et aussi Monsieur Comen, qui ont été très très réactifs. Il a permis donc de gérer ça dans l'urgence et de présenter tous ces papiers rapidement à la DNCG. Et aussi, je tenais à remercier aussi Karim Chibli de la région qui a été vraiment vraiment aussi très très réactif. Donc voilà, nos institutions sont vraiment avec le FC7 et l'ont prouvé ces derniers jours.
Oui, alors d'ailleurs, le jour même, Jean-François Gambetti, le président du FC7, avait quand même communiqué par le site officiel du FC7 en rassurant les supporters sur cette finalement procédure un petit peu particulière qui était administrative. Néanmoins, on voit que la DNECG, c'est vrai que ça arrive, notamment pour les clubs promus, a un petit peu a validé l'accession du club, mais avec encadrement de la masse salariale.
C'est courant. Tu regardes le Stade Briochien, tu regardes Bastia aussi. Apparemment, pour les clubs qui montent, c'est un encadrement de la masse financière. Après, moi, je trouve très très bien d'être encadré parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. Donc, le fait d'être encadré ne change rien. C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant où vous augmentez votre budget, que vous voulez augmenter votre masse salariale, il faut juste prévenir la DNCG et leur informer qu'on a fait une augmentation de la masse salariale pour tel ou tel motif. Donc, c'est pas quelque chose de rédhibitoire. Par contre, c'est quelque chose qui permet d'avoir une mainmise sur le budget et de gérer de manière le plus précis possible. Donc, ça change rien dans notre façon de faire. On aura le plus petit budget du national. Donc, on est obligé de toujours gérer au centime près.
Donc, on peut rassurer les auditeurs parce que sur les réseaux sociaux, dans les couloirs, Radio One a des antennes télescopiques, voire tentaculaires. Nous sommes allés nous répandre un petit peu partout et on entend « Oui, mais le club ne peut plus recruter parce qu'il y a un encadrement de la masse salariale. » Est-ce que là-dessus, tu peux rassurer les supporters sur le mercato?
Il faut juste qu'ils attendent un petit peu, d'accord, encore un petit peu, et puis ils auront de belles surprises. Après, c'est clair qu'il a fallu faire des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va recruter prochainement des joueurs de haut niveau, de très haut niveau, les gens vont être surpris parce que s'ils pensent que le FC7 a des problèmes financiers, ben ils vont être surpris par rapport à ce qu'on va ramener, mais à des salaires complètement maîtrisés. Voilà, on va pas faire de folie, mais on va ramener des très très bons joueurs. Après, c'est clair que il a fallu faire des choix, donc peut-être qu'il y aura des départs, peut-être que des joueurs ne resteront pas au club. Mais pour l'instant, comme je te le dis, c'est des périodes où il faut rien dire parce que ça se joue à pas grand-chose. Il y a des joueurs qui souhaitent pas que leur arrivée soit divulguée. Des protocoles d'accord ont déjà été signés avec ces joueurs, donc ça veut dire qu'ils sont liés au club du FC7, sauf si les clubs pour lesquels ils appartiennent ne veulent pas les libérer. C'est... Après, Jean-Marc, tu m'excuseras, par rapport aux réseaux sociaux, tu sais bien que c'est toujours les mêmes personnes qui parlent, qui l'année dernière, rappelle-toi même, à la même période, quand on avait été encadré, avait dit que le club ne passerait pas devant la DNCG, c'est les mêmes personnes qui disaient qu'il y avait un trou financier de je sais pas combien, 1 000 euros, milliers d'euros. C'est les mêmes personnes qui appellent ma famille pour leur dire que j'ai pris de l'argent au club et que j'ai détourné. Je crois que la dernière fois, la semaine dernière, c'est j'avais détourné 150 000 euros. Donc Jean-Marc, tu sais, c'est pas des périodes. En fait, au niveau, tu sais, j'ai beaucoup de respect aussi pour Jean-François Gambetti parce que tu sais, dans cette période-là, en fait, ça devrait être la joie. Ça devrait être là vraiment le moment le plus agréable d'une saison quand on monte comme ça. Puis on se rend compte qu'à cause de 3-4 personnes, on passe des moments qui sont détestables en termes d'image, en termes de communication et bien sûr en termes d'image par rapport aux joueurs, parce que les joueurs, quand ils lisent ce genre de choses, qu'ils veulent venir, tu sais très bien qu'à un moment donné, tu te poses des questions, hein, tu sais. Donc ces gens-là rendent pas service au club, et je pense que c'est leur souhait. Donc
oui, finalement, ils déstabilisent le club.
Déstabiliser, c'est un grand mot.
Enfin, mais en tout cas, l'ambiance qu'il y a autour du club.
Exactement, exactement. Et puis c'est surtout marrant parce que tu sais, j'ai pas Facebook, donc à chaque fois qu'on m'envoie, je vois c'est toujours les mêmes noms, les mêmes personnes qui parlent. Donc bon, voilà, maintenant les gens le savent. Même je demande, il y a certains supporters, des vrais supporters que j'appelle, qui nous défendent sur les réseaux sociaux. Je leur demande même de pas perdre leur temps à répondre à ces personnes, parce que finalement, là, tu vois qu'on est passé devant la DNCG, là, on va avoir 2-3 recrues de nouveau. Ces gens-là, en fait, ils s'arrêtent. Et puis, bon, voilà, si on a 2-3 mauvais résultats, ils vont revenir. Voilà,
oui, et puis c'était les mêmes l'année dernière, au début de saison, qui disaient que la préparation avait été ratée, que le recrutement a été raté. Au final, même si la saison a été tronquée, 11 points d'avance, ça devrait faire taire les rumeurs. Eh bien non, certains voit toujours le verre à moitié vide. Nous, en tout cas, à Radio One, on soutient le FC7 et on est tout à fait conscients qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de challenges à relever, que le staff travaille très dur, que ce soit sur le terrain ou hors du terrain, et on sera toujours derrière les couleurs vertes et blanches. Mais tu nous as mis un petit peu en appétit en disant le mercato, on s'en doutait un petit peu, mais c'est bien que tu le confirmes, ça rassure et puis c'est une information. Le mercato n'est pas terminé. On a bien compris que tu ne pouvais pas donner des noms et c'est tout à fait légitime. Mais est-ce que tu peux nous donner des pistes qui nous éclairent un petit peu sur la philosophie de jeu, sur ce qui nous manque actuellement, que vous cherchez?
Déjà, on pourrait faire le point sur ce qui est arrivé.
Oui, bien sûr.
Il y a une arrivée qui n'a pas été officialisée. Donc c'est déjà sur le poste de latéral droit, de gardien de but. Donc c'est un garçon qui va arriver, si on peut l'annoncer, puisqu'il a signé. C'est Aziz Mansour. C'est un garçon qui a joué à Alès en National 3, qui a joué à Lunel en DH, qui va être une doublure bis avec notre ami
Siani
Anto. Aziz a un profil, c'est un jeune joueur qui mesure 1m95, qui a un profil un peu à la Brice Niclos. Donc on continue sur un même profil de gardien, et avec bien sûr un numéro 1, Vincent Papalardo. Ensuite, sur les postes latéraux, donc on a eu l'arrivée de Mamadou Dramé
de Béziers.
Il y aura Omar Diop qui va rester. Une prochaine arrivée aussi qui va signer dans les jours qui arrivent, un jeune joueur qui a joué en National 3, qui a un profil très très rapide dans notre 3-5-2, qui pourrait être très très offensif, donc qui va arriver dans les jours qui arrivent. Je pense que c'est vendredi qu'on va signer son contrat, donc on l'annoncera très rapidement. Sur le côté gauche, il y a un jeune joueur qui va arriver aussi, qui vient de la région parisienne, qui vient de Copé d'Ivry. On peut l'annoncer puisque il a signé sa licence. Il s'appelle Abderrahmane Tabak, qui est un joueur qui a un profil offensif, un jeune joueur. Voilà, ça fera partie de l'effectif. En défense centrale, donc on a un joueur aussi qu'on n'a pas annoncé, qui s'appelle Amadou Sedi. Donc ça, c'est des jeunes joueurs qui font faire partie de l'effectif. C'est des joueurs très prometteurs, d'accord, qui en fait feront partie de l'effectif. Mais voilà, qui sont pas des recrues, qui sont, où les joueurs sont venus pour jouer au club.
C'est la profondeur du bain.
Exactement. Donc, mais c'est des joueurs, par exemple, ce joueur Amadou Sedi a joué à Coulommiers, qui a eu plein de matchs de Coulommiers l'année dernière, qui a joué contre nous d'ailleurs, qui cette année était en National 3, mais qui a un profil très intéressant.
C'est connaître Warren Kadi alors.
Eh ben, écoutez, c'est son meilleur ami, donc tu as bien compris que par moment c'est intéressant aussi que le vestiaire se vive bien, et ça fera partie des choses sur lesquelles on a axé notre travail et qui sont réfléchies et pesées. Donc voilà. Après, pour le jeune Tabac, il joue dans l'une des meilleures équipes de la région parisienne en National 3, et voilà, donc avec des personnes avec qui on travaille au niveau du recrutement, qui pensent que c'est quelqu'un qui a un profil très intéressant. Donc après, dans l'axe, vous en avez parlé, donc il y a Steve Solvay qui va venir. C'est un joueur très prometteur.
De Bergerac,
qui a été blessé à partir du mois de décembre, mais là, qui a complètement récupéré, qui sera fin prêt pour revenir, qui a un profil technique très intéressant, avec de la hauteur aussi. Ensuite, on avait annoncé l'arrivée d'Amidou Ba, qui avait amené son expérience et sa taille. Donc Amidou Ba ne viendra pas au FC7, on va le communiquer bientôt. En fait, la seule problématique qu'il y a, qui est liée aussi à la DNCG, c'est que Amidou Ba avait été reclassé amateur l'année dernière dans le club où il était. Donc il était en licence amateur. Donc quand on était rentré en contact, il nous avait dit qu'il était en licence amateur. Mais les règlements de la Fédé, tu vois, quand on monte dans chaque catégorie, les catégories ont une particularité.
Un règlement spécifique.
Et en National 1, un joueur qui a été reclassé amateur doit rester 2 ans dans la catégorie où il est. Donc vu qu'on ne peut pas lui faire un contrat fédéral en plus, donc Amidou Ba, malheureusement, ne fera pas partie du FC7. Donc on essaie de voir avec nos réseaux d'agents qui travaillent avec nous pour essayer de lui retrouver une nouvelle destination. Mais voilà, c'est un garçon, on est désolé, parce que c'est vraiment quelqu'un qui aurait renforcé ce poste. Voilà. Au milieu de terrain, avec Francis Quimbolo, notre Francis Sétois national, qui revient de blessure, donc qui a profité de cette période pour récupérer, qui va revenir directement à la reprise de la saison. Nous avons Arnold Temanfo, qui est un joueur qui peut jouer aussi en défense centrale, qui était en Belgique, en N3, la troisième division belge, qui jouait plutôt dans un rôle de défenseur central, et sinon qui était à Créteil-Lusitanos, qui lui jouait dans un rôle numéro 6, un peu profil à la Sissoko, qui complétera le milieu de terrain. Nous avons fait venir aussi Alexis Manet, qui est un joueur box-to-box, un peu à la profil Matuidi, qui peut jouer devant la défense ou qui peut jouer numéro 8. C'est un joueur qui sort du centre de formation de Nantes, qui a joué en première division quelques matchs avec Guingamp et Nantes. Il a montré de belles choses, même s'il était déçu par le fait de ne pas être dans le groupe avec Gourcuff à Nantes. Mais c'est un profil pour moi qui j'attends avec impatience le fait de le voir jouer à nos côtés. En attaque, on a eu l'arrivée de Tony Patrao. Je crois que tu l'avais bien présenté en étant... le goléador du Puy pendant des années, mais l'année dernière, en faisant 13 matchs de national, il a eu une petite blessure, voilà. Même à 34 ans, on a eu peut-être des petites critiques en disant qu'il avait 34 ans, mais moi, je donne rendez-vous à tout le monde parce que c'était un véritable professionnel. Il est arrivé, il a montré déjà, au niveau de la mentalité, des choses remarquables, dès son arrivée au club, des choses que je garderai en particulier, mais c'est vraiment quelqu'un de, voilà. Et c'est des gens qui sont venus au club en faisant des efforts financiers. C'est ça que je veux bien expliquer à tout le monde, c'est que le FC7, ne peut pas se permettre comme d'autres clubs de donner des émoluments importants et voilà, tous ces joueurs qui sont venus sont vraiment venus pour le projet du club plus que pour le salaire.
Et tu oublies Julien Farnabé peut-être.
Je finis avec Julien, merci. Julien Farnabé, donc Julien, c'est un joueur qui a des qualités mais exceptionnelles. Voilà, son gros problème, c'est un joueur qui s'est blessé sur ces dernières années, d'accord, donc c'est un pari que l'on prend, un pari mutuel, donc il est bien au courant de la situation. S'il arrive à retrouver son niveau, ça sera un renfort exceptionnel pour le FC7. C'est un joueur qui a des qualités techniques, des qualités de puissance, des qualités vraiment qui sont impressionnantes. C'est un peu un style à la Warren Caddy. Donc espérons qu'on arrive à... On a déjà fait des visites médicales, on a fait des tests avec lui pour voir d'où venaient ses problématiques. On a déjà décelé pas mal de choses. Donc nous, on a confiance en lui. Et donc voilà, on s'est entretenu, on a des conventions particulières avec lui en fonction de toutes ses blessures. Et c'est quelqu'un sur qui on compte.
Je confirme parce que je l'ai vu jouer avec Béziers et on voit que c'est un joueur qui a un potentiel énorme. Peut-être il faut qu'il le canalise, qu'il se rende compte aussi que être à ce niveau c'est déjà bien et que peut-être dans sa façon de vivre aussi il faut qu'il régule un certain nombre de choses. C'est un message qu'on te passe, Julien, on te connaît pas mais on compte sur toi, sur ta conscience professionnelle. Le FC7 a besoin de toi. Alors dans tout ce que tu viens de citer, Cendric, absence totale du Montpellier Hérault, où on en est de ce partenariat?
Donc écoute, on peut pas le rendre officiel, mais déjà il y a un joueur. J'ai reçu hier donc le mail dans ma boîte, donc on peut pas encore le communiquer, mais il y aura un joueur sûr du Montpellier qui sera avec nous. Le président ce matin doit signer la convention de partenariat avec le Montpellier. Donc le club préfère attendre que de communiquer, mais voilà.
Ce sera un milieu de terrain.
Oui, voilà, ce sera un joueur milieu de terrain. Tu sais, de toute façon, tout le monde sait qui c'est qui va venir.
Tout à fait, non, mais on respecte.
Donc, je préfère. Le club m'a demandé de passer par la communication du Montpellier pour annoncer ça. Donc on respectera ça, mais c'est quelqu'un qu'on attend aussi avec impatience, qu'on avait déjà contacté à la mi-saison et qui nous avait fait du mal lors de la rencontre contre Montpellier avec la réserve. Donc même si voilà, il revient de blessure aussi, c'est quelqu'un sur qui on compte grandement.
Alors, tu l'as dit au début de notre entretien, on aura sans doute avec Saint-Brieuc le plus petit budget de national, et donc évidemment au niveau de la politique de recrutement, etc., de dépenses, il va y avoir une grande vigilance. Est-ce que tu as, on en avait déjà parlé, vu qu'on vient de franchir un cap important, parce que le national c'est quasiment une Ligue 3 professionnelle, est-ce que tu es optimiste? Tu vas me dire que tu es peut-être réaliste. Est-ce que tu es optimiste en matière de sponsoring privé? Parce que quand on voit ce qu'a demandé la DNCG, finalement c'est la validation, je dirais, de nos sponsors institutionnels, les collectivités territoriales. Mais à côté de ça, il faut que le sponsoring privé puisse aussi prendre la main. Est-ce que là-dessus, toi qui es aux manettes particulièrement de ce secteur, avec le président, tu as des pistes intéressantes?
Alors par rapport à ce sujet, c'est très intéressant. Tu sais, quand on bâtit un budget, il faut toujours donner à la DNCG une somme forfaitaire, que ça soit en mécénat ou en sponsoring. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu la période qu'on a actuellement. On a essayé d'être le plus minimaliste. Je ne sais pas si le terme s'emploie, mais
si.
Pour essayer de ne pas prévoir des choses qu'on ne saurait tenir. Après, tout ce qui est petits sponsors, les restaurants, les entreprises qui en ce moment subissent la crise, je me voyais mal aller leur taper à la porte pour leur demander de nous donner, voilà, alors que les commerçants, c'est toi, et du bassin de Thau subissent des problèmes en ce moment, et je les soutiens dans cette période difficile. Par contre, il est vrai que certaines grosses entreprises souhaitent rejoindre le club. C'est-à-dire que, en fait, le club, en arrivant dans cette Ligue 3 professionnelle, attire des investisseurs et attire des personnes avec des grosses entreprises. Donc, peut-être que nous aurons moins d'investisseurs en termes de nombre, des petits investisseurs, sans être méprisant, parce que le club n'a pas la, on va dire, ne rejette aucun sponsor, du plus petit sponsor, on ouvre nos portes et on les respecte autant que les grands sponsors. Mais c'est vrai que, voilà, dernièrement, pendant la crise, pour valider le Covid, parce qu'il faut savoir, quand un club n'a pas de tournoi, quand un club, à un moment donné, ne reçoit plus de recettes, que ce soit en billetterie, que ce soit en sponsoring, que ce soit en buvette, à un moment donné, pour passer devant la DNCG, tu sais que ça a été très, très, très compliqué. Et en plus, je sais pas si vous en aviez parlé, non, puisque le président n'est pas arrivé, mais grâce au président Gambetti, les joueurs sous licence amateur ont continué à être payés pendant cette période, alors que la DNCG et le commissaire aux comptes indiquaient qu'il ne fallait pas le faire. Et le président Gambetti, lui, a souhaité que ses joueurs soient payés à 70%. Donc, le club aussi a un lien social avec ses joueurs et avec ses partenaires. Donc, prochainement, on va rencontrer des gens pour travailler là-dessus. Il y a plein de choses qui vont être annoncées prochainement, avec une billetterie en ligne, avec une boutique en ligne aussi qui permettra aux supporters d'acheter les maillots du club, qui vont être sympathiques, on va les présenter. Voilà, on essaye de professionnaliser, comme tu l'as dit, notre club. Mais bon, voilà, après, il faut y aller doucement. Je pense que faut pas s'enflammer. Je vois déjà certains supporters qui parlent de la Ligue 2. Je crois qu'il faut raison garder, parce que chaque année, 50% des promus descendent de division. Ça, c'est
on
statistique.
A Béziers à côté qui...
Voilà, donc,
et puis notre propre expérience. En 2005-2006, on était tous heureux. Mais bon, on connaît la suite.
Voilà. Après, par contre, voilà, je pense qu'il faut pas arriver là avec des craintes. Faut être, je pense, sérieux dans le travail, comme on a fait jusqu'à présent. Et puis bon, le recrutement fait que je pense que, voilà, si on arrive à rajouter encore une ou deux belles touches au niveau de l'expérience à des postes clés, je pense qu'on pourra faire bonne figure. Je pense pas, j'en suis persuadé.
Alors donc, l'objectif quand même sportif cette fois-ci du club, la saison prochaine, Cendric, c'est quoi? C'est le maintien ou peut-être plus?
Moi, tu sais, je suis un guirou dans l'âme. Donc ça sera le maintien le plus rapide possible. Maintenant, tu sais, il faut rêver. Moi, je suis un grand rêveur. Voilà, maintenant je officiellement, voilà, on va jouer le maintien, et c'est logique, je veux dire,
tout à fait.
C'est complètement logique de dire que, parce que le national est un championnat très très dur. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on arrive en national au moment où les budgets vont diminuer pour certains clubs. On peut voir que les recrutements sont pas aussi importants que dans les années passées. Donc des joueurs qui étaient là et qui touchaient des salaires très importants dans certains clubs professionnels ou pas, ben on a remarqué que tout le monde a dégraissé au niveau des gros salaires. Donc je pense que le niveau va être beaucoup plus homogène, et que je pense que tous les clubs auront une carte à jouer, et que ça va être très 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 homogène comme championnat. Voilà, après ça sera un plaisir d'aller jouer à Bastia, ça sera un plaisir d'aller jouer. Je crois que j'ai compté, peut-être que tu l'as fait mieux que moi, je crois qu'il y a 11 clubs sur les 18 qui ont été des clubs professionnels dans les 4-5 dernières années. Donc à part nous, le Stade Briochin, je crois Annecy, Concarneau, même Bastia Borgo était en D2 il y a 4-5 ans de mémoire. Donc ça veut dire qu'on rentre quand même dans un univers tout autre. Pour ça que la stratégie du club aussi, dans son recrutement, dans le fait de ne pas avoir conservé certaines personnes, malheureusement fait que la raison, à un moment donné, passe au-delà du cœur. Et,
oui, il y a des choix qu'il faut faire de joueurs. Nicolas Guibal nous l'a dit ici, à ta place, il y a une quinzaine de jours, il a dit des choix déchirants. Bon, on pense à Kentengo qui s'en va à Béziers, et on lui souhaite vraiment le meilleur parcours avec Béziers. C'était un garçon charmant et un bon joueur. Mais bon, voilà, c'est comme ça, le navire continue, les hommes passent, mais la structure reste.
Il faut savoir que pour des garçons comme ça, des contrats leur avaient été proposés quand même. Il faut bien comprendre qu'à part les personnes qui ont été annoncées au départ, qu'on n'a pas gardé sur un choix sportif, il faut savoir quand même que ce soit Cantengo ou Floris Isola, ils ont reçu des propositions du club avec des revalorisations par rapport à l'année dernière, des revalorisations moins importantes que ce qu'eux souhaitaient. Après, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. quand le salarié souhaite que avoir un émolument plus important, eh ben tout simplement, ben voilà, ils n'ont pas accepté qu'on les augmente pas à la hauteur qu'ils souhaitaient. Mais voilà, je tiens à préciser que ça soit pour Quentin
ou pour Floris, qui était un peu le joueur emblématique de cette...
Ou pour Jordan Cassa.
Ou même Jordan Cassa.
D'accord, des propositions de salaire ont été faites, avec pour Jordan Cassa une augmentation assez importante. D'accord. Après, voilà, on peut pas jeter.
Ils ont fait leur choix.
Exactement.
En tout cas, Cendric Bitton, alias Giroud, retenons-le, mais tu sais que Giroud, il allait aussi sur la pelouse et il comblait les trous. Tu ne fais pas ça quand
non,
même.
Non, quand même pas, quand même bon, pas. Par contre, Jean-Marc, toi, chaque année, rappelle-toi l'année dernière, je t'avais posé une question. Alors toi, là, quand je t'annonce cet effectif, toi qui suis l'équipe et qui connais bien le football depuis ces dernières années, quelle est pour toi la piste que tu vers où tu irais? Voilà, qu'est-ce que pour toi il manque dans cet effectif pour essayer de faire une belle saison?
Écoute, moi, je pense comme toi et comme Nicolas, parce que on n'est pas tout à fait de la même génération, mais on voit le foot un peu de la même façon. Moi, j'aime le jeu. J'aime les créateurs. Alors, l'année dernière, on a eu la chance d'avoir Cerber, qui est effectivement quelqu'un qui tripote le ballon. On va le conserver.
Oui.
Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que j'ai fait l'appel à Farnab, parce que je crois qu'effectivement, avec Cerber, au milieu du terrain, au niveau de la création, ils peuvent apporter. Après, sur la philosophie générale du jeu, il faut être réaliste. Hein. Nicolas, c'est la première question que je lui ai posée il y a 10 jours. On monte, il faut se maintenir, donc il faut un bloc équipe hyper costaud. Les joueurs que tu m'as annoncé, que vous avez annoncé, me paraissent avoir le profil intéressant, polyvalent, défensif, bloc équipe. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Si on a la chance de garder Warren Caddy et Wilfried Banajaba, on a des joueurs de contre capables de descendre très bas et de remonter avec le ballon. Donc, ils peuvent faire la différence. Alors, qu'est-ce qui manquerait? Tu dis qu'on peut rêver. Ben, il nous manquerait cette espèce de joueur qui ressemblerait à Kevin Testu. C'est-à-dire ce joueur de rupture qui, sur un geste, fait la différence. Kevin a fait ses choix. On n'a pas à les commenter. Je le connais bien. Je sais à peu près comment il fonctionne. Je regrette un peu qu'il soit dans un club de national, parce que je pense que dans un club de Ligue 2, je l'aurais mieux compris. Mais il avait peut-être aussi des contraintes personnelles qu'il faut respecter. Mais si vous trouvez un joueur qui lui ressemble, on est preneur à Radio One, parce que c'est des joueurs qui créent le spectacle.
Oui,
et ça, c'est important.
C'est vrai que par rapport à ton analyse, elle est bonne. Après, c'est vrai que le championnat national aussi est très compliqué. Donc, au milieu de terrain, on a aussi des bons joueurs comme Walid Orinel, comme Ryan Ferraoui, hein, en plus de Cléry Cerber. Donc, voilà, c'est un championnat qui est compliqué. Donc, je pense que aussi, il va falloir apporter de l'expérience. Donc, c'est vrai qu'une touche technique de haut niveau au milieu de terrain avec devant un profil killer, un petit peu avec pas mal de profondeur, un attaquant, un vrai attaquant. Ben, pour te dire, c'est sur ça qu'on travaille. Donc tu vois, on a à peu près les mêmes sensations quand on connaît le club. Le travail est pas compliqué. Après, c'est de faire le bon choix et on n'a pas le droit de se tromper.
Surtout avec des moyens financiers.
Exactement.
Il faut
après,
être honnête.
Par rapport à Kevin, bon voilà, on va pas se mentir, on lui a fait la plus grosse proposition salariale que le club pouvait faire. Voilà. Donc après, je pense qu'il est resté aussi dans un club pro. Bourg-en-Bresse a gardé le statut professionnel. Donc pour lui,
c'est bien.
Je crois que le fait d'être professionnel était le plus important pour lui, puisque quand il est parti en juin dernier. Après, je pense que le club aussi, quand il y avait Kevin Testu, jouait d'une manière différente. On avait moins la possession de balles, on était moins dans ce jeu que tu aimes et que le coach aime aussi. Donc on jouait beaucoup sur ses qualités de vitesse. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les équipes, quand on joue avec un joueur comme ça seul, savent comment défendre. C'est-à-dire qu'on garde moins d'espace, on fait un bloc un peu plus bas, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je suis plus partagé maintenant sur le fait d'avoir plusieurs francs tireurs avec des profils différents.
Oui.
Ce qui fait qu'après, on peut être beaucoup plus imprévisible.
En tout cas, Cendric, j'ai eu Kevin Testu il y a quelques jours au téléphone. Et je lui ai dit d'abord que je respectais son choix, mais qu'il allait souffrir Louis Michel et qu'il s'attendait à un accueil musclé, parce que le FC7 sera présent de toute façon à tous les matchs. Et même en national, je pense qu'il sera difficile de s'imposer au Louis Michel. Cendric, le retourne. Je te remercie de ton franc-parler, de tes précisions très claires et de cette analyse plus fine que ce qu'on lit ici et là à la louche. Et puis on se donne rendez-vous prochainement. Je pense que le président Gambetti viendra pour nous annoncer un certain nombre de choses que tu as commencé à dévoiler. Encore merci de ta disponibilité. Radio One, la saison prochaine, nous allons avoir une rencontre avec le directeur pour voir comment on va s'organiser nous aussi pour passer un cap. Et encore merci au FC7 pour ces soirées formidables de la saison passée. À très bientôt, Cendric.
Merci à vous de nous soutenir. Merci.